Hey, bonjour, bonsoir, vous êtes à Voix de Fée, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Je suis Nicolas en compagnie de...
Johnny.
Stéphane.
Et Farouko qui est silencieux.
Oui, il y a quelqu'un qui avait changé mon micro.
Donc, cette semaine à l'émission, qu'est-ce qu'on a? On a un reportage sur un blocage organisé par le Frappru à Ottawa, blocage d'une... d'un édifice fédéral appartenant à l'armée, en fait. C'était l'armée de l'air. Oui, c'est ça. Donc, l'armée de l'air Ottawa qui a été bloquée. Et comme on est dans le sujet, on va aussi avoir une entrevue avec Héloïse Gaudreau de la coalition opposée au recrutement militaire au Saguenay, qui avait eux aussi un blocage, en fait, une ligne de piquetage à l'Université du Québec à Chicoutimi ce mercredi 3 novembre. On a aussi un reportage d'ambiance sur le collectif de minuit à l'Université Laval.
Mais on a aussi, il faut parler de la demande de contestation judiciaire qui a été déposée par deux autochtones de Sarnia par rapport à la pollution dans la vallée pétrochimique dans, tout ça, à Queen's Park.
Et une rubrique, encore un retour sur le RLQ, mais cette fois-ci sous l'angle d'une comparaison avec le Tea Party, puis on va voir qu'il y a pas mal plus de ressemblances que ce à quoi on pourrait s'attendre.
Elle s'est rendue hot, hein? 3 semaines, puis c'est rendu un acronyme. Le réseau Liberté Québec, la gang de bébites de droite qui se sont réunis à Québec il y a 2 semaines. Et on a aussi de la musique.
Oui, on va commencer avec Webster.
Oui, Webster qui lançait un album le 27 octobre dernier. On a ça, tout beau, tout chaud, sur les ondes de Sequoia. On va écouter Collet Blanc. Aye, Mr. Web, you put stars, baby. Airline, boys, I do, you know. District 6. Aye, aye. Yeah, quick search. Black is economic, right? N'est pas de stimulus pour du budget. Trade out, yo. Regarde, c'est déjà 20 ten. L'ambiance est si froide qu'on se donne la main avec une mitaine. Le monde est devenu fade à un tel point que je me dis d'aime. Presque à bout de souffle comme s'il souffre d'emphysème. Il faut qu'on se motine et que l'on tue le capitaine. Il se trouve que le futur est peint de gris plus en plus terne. S'agit de se rendre utile, de prendre soin de ceux qui t'aiment. Il n'y a rien de plus futile que croire encore dans ce système. Yep, 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 ça y est, on y est encore au step et on y est. Ça sert à rien de le nier, ce siècle a un goût de cendrier. Check, on est enlisé, économie enrayée. Quelque chose est vicié, comme un lit sans oreiller. Délit d'initié entre deux gorges et des nessies. Transfert de 10 milliards en Suisse et de 30 missiles en Russie. Des fusils usés d'Israël, des barils du BP Shell. Easy money des cartels, AV dans les îles, les Seychelles. Les banquiers nous écartègent, qu'à ce qu'on soit tous desséchés. Font une cote sur la cagaise, tu fais le temps pour les sachets. Chaque pays de la planète sont autant de cases et les chipiers. Tu veux parler, guns et bolettes, ils n'ont qu'à sortir le chiquier. Pour eux, les rumeurs de la guerre, c'est comme un son d'Alicia Keys. Mélodie de sa lorraine. Il n'y a que la paix pour les choquer. Tu sais, chez beaucoup de gens, l'avarice est un défaut caché. Prêt à tout pour faire du bread et je te parle pas de focaccia. Regarde, c'est déjà 2011. L'économie va mal quand je le constate, mes sourcils froncent. Le vibe est peu banal et ça l'est depuis l'âge de bronze. S'il te reste un peu d'espoir, je prendrais bien une petite once. Il faut qu'on s'organise et que l'on s'occupe de ces monstres. Plier les coffres des entreprises, le bénéfice serait immense. Tu vois la foule des fers sur Wall Street et ferme un basse. Distribuer les ressources pour se sortir de cette impasse. Ils agissent comme des malfamés, Banque mondiale, FMI. Trop de gens sont affamés car ils entretiennent les famines. Ils font les profits gigantesques grâce aux crises artificielles. La prochaine fois que tu check les news, demande-toi qui tire les ficelles. Ingérence économique dans le social et politique. Ils font des remontrances à tous mais n'en suivent même pas l'éthique. Nouvelle tactique coloniale, c'est la dette des pays pauvres. Impérialisme sauvage, tu veux un prince, faut payer pour. Vois les quais de Sri Lanka enchaînés dans un sweatshop représentant ses car remercié par un headshot. Tous les ouvriers du monde qui labordent pour des cacahuètes. Aujourd'hui les droits de l'homme ont une odeur de cacahuètes. Ceux qui fouillent les dépotoirs se trouvaient un peu de food. Comme ces petits enfantins qui se donnent aux pédophiles. Pas une vie mais la survie. J'ai mon esprit d'abasourdi. L'aristocratie s'assouvit tandis que le peuple crie en sortie. Regarde, c'est déjà 2016.
plus les choses avancent et moins la corruption ne cesse. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais 10% deviennent obèses. Vois les moutons qui consentent, manipulés comme de la terre glaise. Il faut que l'on s'embrase et qu'on jette les lits dans la braise. Définition du feu sauvage se propage comme de l'herpès. Est-ce que t'entends le son des libertés que l'on compresse? Il faut se libérer des liens avec l'épée de Damoclès.
Yo, nous pointe du doigt parce qu'on est habillé hip-hop. Toi, ce que je dis, parce que c'est nous les criminels. Mais tout le monde sait que les vrais criminels portent des collets blancs avec un complet, une cravate assortie. Toi, ce que je dis, c'est là que le vrai money se passe. C'est là dans les hauts du parc le vrai money se brasse. Non, so yo, stand up. Hip-hop Québec, stand up. On reste fort, y'a plus de casse. Stand up, non.
Donc c'était Webster sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, de son nouvel album Le Vieux de la Montagne, Le Sage de la Montagne.
Le Vieux de la Montagne.
Ouais. Le Vieux de la Montagne. Donc, ben c'est toi qui commences, Jenny.
C'est ça, c'est deux autochtones de Sarnia, Ada Lockridge et Ron Plain, d'une nation que je ne prononcerai pas le nom parce que je ne serais pas capable. C'est deux autochtones qui de Sarnia, Calais, que le nouveau policier a autorisé à Queen's Park dans la vallée Pétauchumée via leur loi constitutionnelle. C'est le ministère de l'Environnement de l'Ontario qui a récemment approuvé une hausse des émissions permises pour les opérations de raffinage. Les plaignants estiment que le gouvernement mesure une mesure inadéquatement à l'impact de la pollution sur leur santé, sont appuyés par les avocats et les scientifiques du groupe environnemental Éco-Justice. Selon la poursuite, justement, qui est déposée contre le gouvernement ontarien, la pollution de 67 industries responsables du taux élevé de plusieurs maladies observées dans la région. William Amos du groupe Éco-Justice affirme que ça fait en sorte que plus de la population de Sarnia donne naissance à plus de filles que de garçons, puis il y a un grand nombre du monde sont hospitalisés, puis aussi des nombreux cas de fausses couches et de problèmes respiratoires sont élevés. Les émissions des usines de la région incluent le benzène, le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote.
Que des bonnes choses pour la santé.
Ouais.
Super. Oui, on y va avec la deuxième nouvelle, dans le fond.
J'ai juste ça, là.
OK.
Mercredi le 27 octobre, environ 450 locataires en colère, dont une trentaine de Québec, sont montés à Ottawa pour participer à une action organisée par le FRAPRU, le blocage de l'édifice du gouvernement fédéral. Voici quelques extraits de cette manifestation.
On est là pour dénoncer le fait que le gouvernement va investir 1 milliard de dollars de moins au cours des deux dernières années dans le logement social, dans la rénovation de logements et dans la construction de logements. Le même gouvernement, au moment où il réduit $1 milliard ses fonds au logement social, va consacrer $16 milliards à l'achat et la réparation d'avions militaires F-35. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On va prendre la rue, on va marcher. Et on va aller faire une action directe en face d'un bureau gouvernemental. On est rendu à notre destination, ministère de la Défense nationale.
Après plusieurs heures de blocage, les manifestants ont levé le camp, non sans avoir d'abord occupé le lobby de l'édifice et s'être fait expulser par la police.
La lutte continue, c'est pas fini aujourd'hui. Le gouvernement fédéral doit verser de l'argent pour le logement social. C'est un seul il faut continuer à le porter. De l'argent pour le logement, pas pour l'armement.
We'll be right back. C'était un montage sonore réalisé par Voix de Fée à partir d'une vidéo de l'Outaouais trouvée sur YouTube et de la balade des déserteurs du groupe montréalais Corrigan Fest.
Sont obligés de se tuer entre eux, non man. Man, pose-toi la question tout seul, non man. Dans tout ce pari sale, il y a condition qui a coulé. Watch out, non. Dis-moi pourquoi les blagues sont obligés de s'entretuer. Dans tout ce pari sale, il y a condition qui a coulé. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'unité. Personne se bat, mon cœur est négalisé. Dis-moi pourquoi les blagues sont obligés de s'entretuer. Dans tout ce pari sale, il y a condition qui a coulé. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'unité. Quand tu vas s'effacer, le jour où ça arrivera, ce sera le jugement dernier. Regarde l'individu, il s'est fait assassiner. Souviens-toi de Hoffman, il s'est fait assassiner. Souviens-toi de Panen, il s'est fait assassiner. Si c'est pas un black qui l'a tué, dis-moi qui est-ce qu'il a fait. Je pousse les jeunes à la réflexion, je veux rien inculquer. Ça ne sert à rien de tuer quelqu'un, encore moins un refrain. Le sang coule comme une rivière dans toutes les cités. Écoute ça, tu vas pour pas les blagues sont obligés de s'entretuer. Dans tout ça, les salis, la peau des envies. Il y a connaissant qui a coulé. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'unité. Personne dit que ce bas mon cœur est d'égalité.
Donne-moi la force. Qui pense que les colons auraient pu sauver Africa. Il dit, voici une espèce, même pas humaine, qui n'a aucune vision des choses, même pas lointaine, que nous devons combattre avec de vrais stratagèmes. En une seconde, tu as saisi le degré du problème.
Pourquoi les blagues sont obligés de s'entretuer. Dans tout ça, il fallait à connaissant qui a coulé. Il n'y a pas de force, il n'y a pas d'unité. Personne se bat pour cœur et l'égalité. Pourquoi les blagues sont obligés de s'entretuer. Pour son enfant qui meurt à l'hôpital avec de basses doses dans le cœur. Je sais pas ce que tu ressens, en tout cas moi ça m'écœure. Je vais les refaire s'en aller aux ailes avant l'heure. Je ne veux pas d'amour refait. Je ne veux pas
Oui, donc, mercredi le 3 novembre, il y avait une journée emploi à l'UQAC. Dans ce contexte-là, il y avait une ligne de piquetage organisée par la coalition opposée au recrutement devant un kiosque de l'armée. Et on a Héloïse Gaudreau pour en parler. Bonjour. Est-ce que tu m'entends?
Oui.
Oui, donc, voilà, comme je disais, aujourd'hui, il y avait une journée d'emploi à l'UQAC. Et il y avait une ligne de piquetage organisée par votre coalition devant un kiosque de l'armée. C'est ça?
Bien, en fait, ça, c'était l'objectif initial. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était un piquetage festif et pacifique devant le kiosque de l'armée pour offrir un contre-point de vue. Mais c'est pas ce qui s'est passé, en fait, puisque ce matin, on a reçu la visite de garde de sécurité puis de la police dans nos bureaux de recherche avant même qu'on puisse se réunir pour aller faire notre action au centre social là, devant le kiosque de l'armée, ce qui a fait en sorte que on n'a pas pu se rendre sur les lieux étant donné que toutes les entrées de l'université nous étaient fermées, qu'il y avait un grand déploiement de garde de sécurité de la part, en tout cas déployée par l'UQAC, donc ce qui a fait qu'on a fait notre action dehors, devant la porte principale, l'entrée principale de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Donc vous étiez barré de votre propre campus?
Oui, puis on était tous des étudiants et des étudiantes qui voulaient aller manifester pacifiquement, là, ce qui est un droit reconnu, un droit fondamental en fait, là, de s'assembler puis de manifester pacifiquement, donc on n'a pas pu aller exercer notre droit dans notre propre université.
OK. Si on revient un peu en arrière, c'est quoi la journée emploi?
La journée emploi, c'est une foire de l'emploi organisée par l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et comptables, donc pour permettre aux diplômés puis aux étudiants et étudiantes de chercher un emploi. Okay. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont invité l'armée à occuper un kiosque dans le cadre de la journée de la foire de l'emploi.
Et qu'est-ce que l'armée a à foire avec les sciences économiques et comptables?
Les sciences économiques et comptables, cette association-là, a organisé la journée emploi là, pour tous puis pour toutes.
Donc, OK, c'est pour tout le campus.
Oui, il y avait le Costco qui était là, un débouché d'emploi vraiment formidable pour un diplômé universitaire. Puis CGI, des comptables, des firmes comptables, il y avait l'armée, il y avait le gouvernement du Québec.
Et l'armée, est-ce que c'est sérieusement là, sur un campus universitaire, est-ce qu'il y a des choses alléchantes pour les étudiants?
Ben en fait, c'est sûr que dans le contexte actuel là, où il y a un dégel des frais de scolarité puis où le service de bourse est de moins en moins accessible, c'est sûr que la perspective des études gratuites puis d'un emploi bien rémunéré par la suite, là, c'est quand même quelque chose qui peut paraître attirant a priori, surtout quand l'armée fait paraître la carrière de militaire comme étant une carrière là, remplie de défis, d'aventures, de voyages, puis de missions humanitaires. Là, on sait que c'est pas le cas, en fait, là, que l'armée occupe pas des missions humanitaires, mais bien des missions offensives, là, puis des guerres d'occupation. Donc, c'est sûr que elle exploite à ce niveau-là là, un peu la précarité économique des étudiants en tablant là, ses efforts de recrutement, notamment sur ses études gratuites, puis sur la perspective d'un emploi bien rémunéré là, à long terme.
Ils offrent mère et monde.
Pardon?
Ils offrent mère et monde.
Mère et monde, en théorie.
En théorie, oui, effectivement. En pratique, c'est plutôt des body bags, mais ça, c'est un autre débat. Au fait, pourquoi est-ce que vous êtes contre la présence des forces armées sur les campus? Est-ce que c'est un débat qui est récent ou...
Ben, en fait, la présence militaire sur le campus, les arguments là, qui sous-tendent l'opposition, parce que nous, on n'est pas les seuls, là, il y a l'opération Objection.
Okay.
Qui est en cours, puis il y a une coalition contre le recrutement aussi, puis les arguments de base, en fait, c'est que les missions éducatives des universités, des cégeps, des écoles secondaires, des écoles primaires sont quand même antagoniques là, à la mission de l'armée, qui est une mission... qui repose sur une culture de violence, sur le fait que les problèmes se résoutent par les armes, alors que les institutions d'enseignement essayent de créer un esprit, bon, théoriquement, ben, dans une certaine mesure, un esprit citoyen, un esprit critique, à amener les gens à penser par eux-mêmes puis à avoir d'autres solutions à certains problèmes. Donc, il y a un antagonisme entre une mission militaire puis une institution d'enseignement qui fait en sorte qu'on pense que ça n'a pas sa place dans les institutions d'enseignement. Puis si on parle des écoles secondaires, des écoles primaires, bien, on parle de gens qui sont mineurs. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on devrait s'opposer avec encore plus de vigueur là, à la présence militaire à ce moment-là.
OK. Et vous, votre coalition, là, bon, tu dis il y a un collectif ou une coalition nationale dont on a entendu parler à Québec il y a peut-être 2 ans, mais qui se fait beaucoup plus discrète ces temps-ci. Là, je vois qu'à Chicoutimi, les braises se sont rallumées. Est-ce que c'était la première action que vous à laquelle vous participiez comme coalition? Ou,
En fait, nous, c'est une coalition ad hoc qui est née suite au constat de la venue des Forces armées canadiennes à ce kiosque-là, en fait. Moi, je suis une militante du collectif Toujours Rebelle à Saguenay. Surtout, avec les revendications de la Marche mondiale des femmes qui revendiquait notamment là, le retrait des Forces armées de l'Afghanistan puis la fin du recrutement militaire dans les écoles, on s'est mis à être plus attentive au retour de la marche aussi par rapport à ce recrutement-là. Puis c'est là qu'on a constaté qu'il allait avoir les Forces armées à la journée emploi.
Okay.
Puis ça nous a amené le collectif là, à vouloir créer une coalition là, de plusieurs forces là, pour s'opposer au recrutement militaire à ce moment-là. Fait en tant que coalition, là, on est né vraiment suite au moment où on a constaté que l'armée allait être présente. C'est sûr qu'à partir de maintenant, on va être beaucoup plus attentif aussi, puis on va pas lâcher.
Est-ce que vous allez maintenir la coalition?
On va tenter de la maintenir, puis on va tenter aussi de pousser la question de recrutement militaire, là, notamment pour faire adopter des positions en Assemblée générale dans les associations étudiantes là, pour qu'il y ait peut-être un mandat un peu plus clair là, qui émane des associations étudiantes pour interdire le recrutement militaire à l'UQAC pour qu'on soit pas obligé de se remobiliser à chaque fois pour faire des démonstrations de force comme ça, puis de vivre la confrontation là, avec les forces de sécurité.
Et est-ce qu'il y a un bon écho, une bonne réception de votre message finalement dans la communauté universitaire de façon générale? Est-ce que ça provoque des débats, par exemple, le fait que vous soyez insurgé contre la présence de l'armée? C'est Stéphane, au fait, un collègue de Nicolas.
Oui, ça suscite du débat. Il y a des gens qui sont venus nous voir autant pour nous envoyer chier que pour nous appuyer. Donc, ça nous a amené à rencontrer là, toutes sortes d'étudiantes, des professeurs ou des gens, des adultes qui étaient sur le campus. Donc, c'est sûr que ça a suscité du débat. Puis, dans les médias, on a hâte de voir aussi ça va être quoi la couverture médiatique demain dans les quotidiens, dans le journal Le Quotidien, dans le journal Le Réveil.
D'accord. Et donc, la suite des choses pour vous, ça va être de voir dans les associations étudiantes, les syndicats, s'il n'y a pas lieu de prendre des positions formelles pour forcer l'université à bouger?
Oui, oui. Puis d'essayer de pousser aussi sur le plan institutionnel, qu'il y ait une position institutionnelle qui soit prise. Mais ça, ça serait vraiment surprenant étant donné l'orientation de notre recteur. Puis des gens qui s'occupent du bureau des affaires publiques, là, on serait vraiment étonné qu'il y ait une politique institutionnelle sur la présence des forces militaires. Mais au niveau des associations étudiantes, on a un peu plus d'espoir là, okay. À ce niveau-là.
Est-ce que tu sais s'il y a eu des positionnements institutionnels ailleurs au Québec sur cette question-là ou vous seriez les premiers?
Bon, je sais qu'il y en a eu. Je pourrais pas vous nommer les institutions d'enseignement, là, je les ai pas en tête, mais si vous vous rendez sur le site www.antirecrutement.info, ils citent quelques avancées là, qui ont été faites dans les écoles, dans les collèges, les universités concernant les politiques institutionnelles, puis les succès, les gains qui ont été faits par les gens qui se sont opposés à la présence militaire.
OK, ben c'est super ça. Ben je te remercie beaucoup. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question ou il y aurait quelque chose que tu aurais voulu dire et que je n'ai pas abordé?
Non, mais je pourrais vous dire que c'est mon entrevue préférée de la journée parce que tous les autres médias à qui j'ai parlé, j'avais une impression de confrontation. Puis avec vous, je me sentais très, très bien. Puis j'étais vraiment contente de faire cette entrevue-là. J'avais presque hâte de la faire.
Ben, ça m'a fait plaisir. Donc, ben bonne chance pour la suite des choses. Puis si jamais il y a d'autres actions, on va peut-être en reparler.
OK, ben je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonjour.
Au revoir.
Oui, nous, on va continuer en musique. C'est bien votre goût.
Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'essaie de regarder mon appareil parce que moi, pour la technologie, on s'entend plus ou moins bien.
Arrête avec ton iPhone neige, nouvelle génération. Là.
Ouais, mais c'est ça, mais l'autre est en plastique puis il y a plein de pitons dessus. Là. C'est pas.
C'est trop vieux.
C'est les noirs, ça devrait être plus facile.
Donc,
une petite téléphone facile.
Oui, avec quoi?
Hey, on y va avec la demande spéciale à Janie avec du Slipknot.
Puis en plus, c'est une toune anti-militariste.
Yes, sir.
Allez, coïncidence.
Psycho-social. Voici au pavillon de Coninck de l'Université Laval. Pourquoi? Pour manger. En effet, chaque mardi, le collectif de minuit se réunit à 11h30 pour offrir de la bouffe végétalienne aux étudiants. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Donc, je suis en compagnie de Maxime du département de sociologie. Qu'est-ce que c'est le collectif de minuit?
Alors, c'est un organisme autogéré qui fait une distribution de bouffe végétalienne à toutes les semaines. C'est proche des concepts de Smart Mob. Alors, on fonctionne uniquement par liste d'envoi de courriel à tous les gens qui sont présents, qui sont montrés intéressés au concept. Alors, à chaque semaine, on a un chef cuisinier qui se présente, monte une équipe pour préparer la nourriture, préparer la table, servir le repas et tout nettoyer à la fin.
Tu dis végétalien, ça c'est différent de végétarien. C'est quoi exactement la distinction?
Végétalien, c'est pas vouloir manger de produits provenant des animaux. Alors on exclut aussi les œufs, le fromage, tout ce qui est produits laitiers, mais c'est pour faire une promotion en général de nourriture qui peut plus se soutenir au niveau de notre environnement.
Des bons légumes pour tout le monde, des navettes, des laitues, des oignons, puis des concombres et puis des choux.
Puis l'objectif du collectif de minuit, est-ce que c'est plus politique ou c'est plus écologique?
Le monde sont intéressés à participer, ils participent. Alors, ça peut aller assez large. Autant qu'on peut avoir des hippies qui sont juste là pour faire la promotion d'une alimentation saine, qu'il y a du monde qui sont là pour juste partager une activité commune. D'autres, c'est là pour promouvoir l'autogestion ou des alternatives non-capitalisme à notre alimentation. Il y a bien sûr le dossier de Sodexo qui fait que beaucoup d'individus veulent juste refuser le contrat de monopole qu'ils ont sur nos installations alimentaires, ce qui est un gros problème pour le collectif de minuit parce que toute notre nourriture est faite dans un lieu extérieur à l'université vu qu'on s'est fait interdire par l'université de faire la nourriture sur leur lieu.
C'est bon! C'est moi qui ai fait ça pour vous autres!
Dans le fond, c'est quoi Sodexo? Un genre de monopole qui fait qu'il n'y a personne d'autre qui peut offrir de la nourriture dans le fond, c'est ça?
Ça peut être flou par moment, mais c'est en gros, la plupart des départements ont des contrats pour savoir ce qu'ils veulent faire la distribution de la nourriture. Ici, on a plusieurs cafés étudiants qui ont des droits historiques de pouvoir distribuer la nourriture, mais ils ne peuvent pas rentrer non plus en conflit avec les produits qui sont offerts par Sodexo. Alors, en tant que tel, c'est eux qui contrôlent les installations alimentaires. On peut manger ce qu'on veut, mais tu n'as pas le droit de cuisiner sur place ce que tu veux. Alors, on contourne un petit peu la chose en cuisinant ailleurs et apportant de la nourriture pour tout le monde qui en veulent sur place quand même.
Et est-ce que vous avez quand même du trouble avec la sécurité?
Disons que l'historique du collectif fait qu'on est plus ou moins avec un droit acquis maintenant, ce qui veut dire que malgré qu'il y a un contrat de monopole, on se fait laisser tranquille.
C'est toi qui es méchant, qui mange pas son souper!
Il y a quelques années, quand l'université appelait la police, faisait rentrer les gardes dans le tas, ça n'a pas fait une très bonne publicité. Alors maintenant, on se fait laisser tranquille par rapport à ça.
Autrement dit, vous avez carte blanche ou est-ce que vous avez quand même eu quelques cas de...
L'université fait beaucoup de pression pour qu'on s'institutionnalise, parce que c'est comme ça que tu peux contrôler puis avoir un suivi sur l'organisation. Mais étant donné l'autogestion de l'organisme qu'à chaque semaine, c'est pas exactement la même équipe, c'est pas les mêmes mondes, qu'il n'y a pas de responsable. On peut pas s'institutionnaliser, c'est ça qui arrive. Alors, malgré qu'ils font des demandes répétées, on y répond pas, et jusqu'à maintenant, c'est ça, là.
Sinon, mange toi aussi, vide ton assiette! Sinon, pas de dessert! En pénitence dans ta chambre!
Maxime, tantôt, tu disais, ouais, il y en a qui sont là pour toutes sortes de raisons, il y en a qui c'est plus pour la politique, d'autres c'est plus pour la bouffe. Toi, personnellement, Maxime, c'est pourquoi est-ce que tu participes au collectif de minuit?
Oh là là! Ben, moi, personnellement, je ne suis pas végétarien, mais j'aime bien ça, faut quand même faire participer à cette alternative-là. Beaucoup de l'autogestion, parce qu'on est dans des... on pourrait parler longtemps de la politique étudiante qui fonctionne de moins en moins bien, et pourtant, d'autres organismes, le collectif de minuit qui est totalement non organisé, réussit à avoir une stabilité quand même impressionnante, je pense, là. Alors, ça démontre un nouveau mode de gestion qui peut être généralisable, mais qui, bien entendu, reste spontané tout le temps. C'est le plus important de la chose. S'il n'y a personne qui se présente, mais il n'y a pas de repas de collectif.
C'est ça, c'est la motivation des gens qui sont dans le collectif qui font que ça fonctionne. Mais justement, parlons-en un peu. Tu dis que c'est autogéré, tout ça. C'est quoi la structure, en quelque sorte, du collectif? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais pour s'organiser. C'est tout ce que c'est une liste de courriels. Puis il y a deux réunions, c'est ça? Une au début et une à la fin.
Effectivement. Alors, au final, première réunion de la session, c'est tout le monde qui sont déjà sur notre liste d'envoi qui veulent encore participer. On fait une réunion pour savoir c'est quoi que le monde a en tête pour cette session-ci, c'est quand que ça leur adonne, parce que vu qu'on ça marche à chaque semaine, il faut que les gens, on peut savoir c'est quand qu'on peut rejoindre le plus de gens. Et plus un débriefing à la fin de la session pour toutes les nouvelles personnes qu'on a rejoint. Bien sûr, on fait des mini-réunions au cours de la session pour accueillir les nouveaux, pour juste leur faire part d'un petit peu la philosophie générale du collectif, pour garder une mission qui reste globale, malgré qu'il n'y a pas de détails une fois de plus par rapport à ça.
Toi, tu fais partie de la sociologie. Est-ce que c'est juste des gens de la sociologie qui sont là-dedans, ou est-ce qu'il ne faut pas avoir des gens en économie ou des futurs avocats?
Non, mais justement, il faut exclure ça de la sociologie. Bien entendu, tu as des départements qui sont plus à risque de participer à ce genre d'activité-là, sauf qu'on a des participants justement en sociologie, philosophie, histoire, anthropologie, services sociaux. Alors, c'est facile d'aller plus
loin. Pas trop de communication, pas trop de lois, pas trop de futurs avocats, de juges, non?
Ben, c'est ceux qui sont prêts à se présenter, ils se présentent. Alors, si les avocats... Il peut en avoir. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de participation, mais il n'y a aucun refus.
Pas ça, ce qu'il y a dans mon assiette.
Et la bouffe, vous la prenez où?
On fait beaucoup d'achats, mais on fait des achats en gros à parmi de grossistes. On essaie de faire de la promotion de récupération tant qu'on peut aussi. Avec l'hiver qui arrive, c'est pas nécessairement évident non plus. C'est variable aussi. Ça dépend à quel point que l'équipe peut s'organiser d'avance. Parce que des fois, comme le repas d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois personnes qui ont participé à le faire seulement, comparé à d'habitude qu'on est quand même plus. Alors ça s'est fait, le concept s'est pensé hier soir. Alors on n'a pas le temps dans ces cas-là de réaliser plus de récupération ou de penser à l'avance et comment qu'on va se fournir. Malheureusement, c'est un désavantage quand même de notre concept, là.
Ça peut arriver quand même qu'il y ait du dumpster diving?
Oui, mais il faut faire attention par rapport à ça, parce qu'on contourne les comportements de la CEPAC un petit peu par le fait qu'on fait des donations de nourriture. Alors, les gens sont conscients que c'est la nourriture faite maison et qu'on ne demande rien en échange. Fait qu'on n'a pas à se faire appliquer à la CEPAC. Mais c'est extrêmement important qu'on serve de la nourriture de qualité aussi, qui fait partie de nos principes.
De manger un bonbon avant souper, puis ton appétit, c'est coupé, hein?
C'est quoi, vous avez une mascotte, là? Je vois qu'il y a un dragon rouge. Je viens de rentrer dans le local, puis un gros bec rouge, il est tout bien rouge, il y a une pancarte qui est marquée collectif de minuit. C'est quoi exactement?
C'est la mascotte de la SS qui vient faire sa promotion pendant notre collectif. Parce qu'on a quand même un appui de plusieurs associations étudiantes, autant symboliques qui peuvent être plus actifs. Alors, je sais pas, cette petite présentation-là peut montrer qu'on a un appui quand même présent. Ça fonctionne uniquement par les gens qui veulent s'impliquer. Alors, plus qu'on en a, moins que les gens individuellement ils ont besoin de donner de temps. Alors, plus que le système fonctionne par lui-même. Alors, c'est ce qu'on veut, parce qu'on peut avoir des bénévoles qui sont épuisés de à toutes les semaines venir faire la nourriture pour les autres, ce qui est positif, mais effectivement, on veut pas que ça s'institutionnalise, on veut pas que ça soit les mêmes personnes tout le temps, parce que ça serait contre un petit peu le principe d'organisation même.
Je suis un navet bébé, je pousse sous terre, voudrais bien qu'un jour ou on me déterre.
Salut! Pourquoi est-ce que tu participes comme ça au collectif de minuit? Pourquoi est-ce que tu vas manger leur nourriture?
Parce que je suis contre Sodexo. Et en plus, c'est gratuit, c'est végétalien, et voilà, que des avantages.
Super! Et est-ce que c'est bon d'habitude?
C'est toujours très très bon. Vraiment, non, il y a peut-être une fois où les carottes n'étaient pas très bien cuites, mais sinon c'est toujours délicieux.
Super!
Voilà. C'est super, c'est une entreprise bénévole, ça c'est... C'est bien.
On me déteste, je suis un con.
Salut. Donc vous autres, vous êtes l'équipe de qui sert la bouffe, dans le fond.
Ouais, si on veut, ben aujourd'hui, on s'est juste impliqué pour ça.
Mais parfois, on peut cuisiner, puis...
Ouais, c'est ça, ça dépend, dans le fond, du temps que vous voulez offrir. Dans le fond, ça dépend de vos...
Pas exactement, ça dépend de la disponibilité de tout le monde. Là.
Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Parce qu'on veut, tout simplement. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Là,
Est-ce que vous le faites par plaisir?
Oui, c'est ça. C'est à la fois un travail gratuit, dans le sens où on n'est pas payé, mais c'est gratuit de tout le temps aussi. Donc, on le fait parce qu'on veut bien le faire, parce qu'on aime ça, voir les gens sourire quand ils ont une assiette de spaghettis dans les mains. Puis, c'est ça. C'est vraiment pour le plaisir de le faire.
Et vous deux, est-ce que vous avez une autre idée derrière ça? Est-ce que, par exemple, j'ai entendu des gens se plaindre de Sodexo. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que vous le faites parce que vous voulez partager votre amour de la bouffe végétalienne? Ou est-ce que vous le faites par politique? Ou
Ben ça, ça dépend de chaque personne. Puis, en effet...
Mais toi, personnellement?
Moi, personnellement, c'est pour discuter avec une nouvelle personne puis pour le plaisir de manger en groupe.
Une sorte d'activité sociale, puis toi, pourquoi est-ce que tu fais ça?
C'est pour... j'aime beaucoup cuisiner, finalement, parce que j'aime beaucoup ça, puis ça me fait plaisir de le faire gratuitement.
Et là, vous allez être relayé. Dans le fond, vous venez de servir la bouffe aux gens, il va y avoir une autre équipe qui va nettoyer, c'est ça?
Ben, c'est pas tant une équipe, ça dépend encore des gens, là. Oui, c'est une autre équipe, mais ça peut être les mêmes, ça peut être d'autres personnes. Ça change tout le temps, c'est pas fixe, là.
Ça fonctionne pas vraiment par un chiffre de travail, si on veut. C'est vraiment... Si les gens veulent servir, ben ils vont le faire, comme nous, on était motivés pour le faire. Il y en a d'autres qui étaient là ce matin parce qu'ils étaient motivés pour cuisiner. Puis là, il s'avère que tout le monde est à peu près dans le même... au sous-sol du Doconinck. Fait que là, ceux qui sont disponibles vont pouvoir ramasser les tables et laver les chenrons.
Salut Mathieu, c'est quoi que t'arrêtes de manger?
Ben, de la bouffe, là, du spaghetti puis des légumes crus.
Est-ce que c'est bon?
Ben oui, cette semaine, c'est vraiment très bon. Je félicite le collectif de minuit parce que il y a du goût. C'est le fun.
Pourquoi est-ce que tu manges chez le collectif de minuit?
Je veux-tu manger ma bouchée, là? Ben, parce que j'ai pas beaucoup d'argent, hein, puis le collectif de minuit me permet de me nourrir tout en ne pas pigeant dans les racks à aliments laissés par les gens après.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Moi j'aime bien manger à la cantine. C'est la fin du monde. On mange trop
mal. Qu'est-ce que vous mangez en ce moment?
Je pense des légumes avec des pâtes, oui.
C'est de la nourriture du collectif de minuit?
Oui.
Pourquoi est-ce que tu manges cette nourriture-là?
Ah, parce que pour moi je suis, j'avais faim quand je suis arrivée et j'ai vu que les personnes donnaient de la nourriture. Moi, je pense que c'est une bonne action. Et ici, par exemple, manger ici, c'est trop cher. Pour moi, c'est trop cher. Et c'est une manière économique de bien manger pour moi.
Une façon économique de bien manger. Et toi?
Oui, je pense, j'ai aussi donné un peu boire parce que je pense que c'est injuste de payer rien.
Je suis une patatata.
Le premier collectif de minuit s'est fondé en 2005. Et le collectif actuel se trouve en sorte à reprendre le flambeau de ceux qui sont passés avant eux. Ça fait donc 5 ans que le collectif fonctionne, mais de façon irrégulière. Certaines années se sont portées mieux que d'autres.
On souhaite bonne chance au collectif et espérons que de nombreux autres collectifs de minuit se mettent à pousser dans tous les milieux scolaires du monde.
Ouais, vous êtes toujours à Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. Dans la rubrique Tout le monde s'en fout, il y a 15 ans, le 30 octobre 1995, c'était le deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. À l'époque, ça faisait 2 ans que j'avais le droit de vote, ce qui m'a pas empêché de m'abstenir parce que de toute façon, ça faisait encore plus longtemps que j'étais anarchiste. J'avais envie de vous en parler, j'ai pas full le temps, mais je me suis amusé à aller chercher 2-3 petites quotes sur Internet. Pour vous rappeler à quel point le Parti québécois menait une coalition intensément progressiste sur ce dossier.
À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Donc, avec ces images des gens aux métropolises, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. Les troupes du non l'ont échappé belle. C'est une victoire à l'arraché, mais une victoire quand même.
Si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Qui est le tordu qui a dit ça? Quel est l'affect de petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort?
J'aurais bien voulu que ça passe. J'aurais tellement voulu, comme vous tous, que ça passe. Hein? On était si proches du pays. Bon, ben c'est retardé un peu. Pas longtemps. Pas longtemps. On n'attendra pas 15 ans cette fois-là.
Que Parizeau se doutait pas le 30 octobre 95, c'est qu'il attendrait peut-être 20 ans et 25 ans. Il faut dire que la coalition qui avait été mise sur pied par le Parti québécois pour ce référendum-là, bon, d'abord, il y avait une coalition de partenaires pour la souveraineté qui était en fait essentiellement les mouvements sociaux. Pour la première fois, tous les syndicats appuyaient la plupart des grandes organisations sociales, la Fédération des femmes du Québec, les fédérations étudiantes, le FRAPRU, ce genre d'organisation-là appuyaient une démarche pour un oui progressiste, alors une démarche pour une constitution et tout, sauf que ce courant d'opinion-là rejoignait pas une majorité de la population et donc permettait pas d'assurer la victoire. Et c'est à ce moment-là que le Parti québécois a été obligé, eux ils pensaient que ce serait suffisant d'aller chercher les mouvements sociaux pour dépéquiciser la souveraineté, vous êtes obligé d'aller chercher d'autres courants politiques, et là ça s'est mis à déraper un peu. Alors j'avais une belle quote de Lucien Bouchard, mais celle que je voulais trouver, je l'ai pas trouvé. C'est le 14 octobre, il tient des propos controversés sur les femmes de qui il tente de gagner la faveur. Il aborde le thème des problèmes démographiques du Québec et il décrit les Québécois comme une des races blanches qui fait le moins d'enfants. Et donc ça, c'était une déclaration de Lucien Bouchard. Lucien Bouchard qui disait aussi dans un grand rassemblement souverainiste, j'ai la citation mais je la mettrai pas parce que ce serait trop long puis que je veux que Stéphane puisse parler un peu, qui disait aussi que qui parlait déjà en fait du problème des finances publiques et il disait qu'il y avait un vent de droite qui s'élevait au Canada et puis qui voulait attaquer les plus démunis et que les souverainistes en faisant la souveraineté, elle s'attaquait au problème des finances publiques en ne s'attaquant pas aux plus démunis. Donc, elle allait faire le déficit zéro autrement. Tout le monde avait compris ça comme étant un discours de gauche en oubliant que le monsieur, c'est un ancien ministre conservateur et que donc, quand il disait qu'il allait s'attaquer au déficit, il n'allait pas le faire exactement comme eux y pensaient. La coalition était très large. On a tendance à l'oublier, mais il y a un petit jeune qui était là à ce moment-là.
J'ai déjà cru au fédéralisme. Monsieur Chrétien, je vous ai vu signer devant la reine contre le Québec. Monsieur Chrétien, je vous ai vu vous promener d'un bout à l'autre du Canada pour tuer Meade. Monsieur Chrétien, je vous ai entendu ce soir ne lancer aucune idée pour l'avenir. Monsieur Chrétien, je ne vous crois pas.
On comprend qu'avec Mario Dumont à la tribune, Lucien Bouchard juste derrière et le groupe Parizeau devant, ça faisait pas une coalition hyper progressiste. Et donc, tout le monde était un petit peu surpris avec le débat sur les accommodements raisonnables et la dérive à droite du Québec dans les 5 dernières années, mais on pouvait déjà le lire dans les suites du référendum. Puis je m'en voudrais de pas vous laisser avec cette merveilleuse citation d'un homme qui accepte la défaite en toute sérénité, qui est un grand démocrate et qui passe encore pour la gauche du PQ.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61% à voter oui, on sera 63 ou 64 et ça signera. C'est tout.
La lumière.
tu acceptable, je dirais même intolérable. Ils sont insupportables, ils sont insupportables. À la limite, tu inacceptable, je dirais même intolérable. Ils sont insupportables. Wow, 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 insupportables.
Depuis, la grande famille nationaliste a éclaté, puis maintenant, ça va dans toutes les directions, surtout vers la droite. Il y a la droite droite, il y a la droite molle, puis il y a la droite dure. Puis on va parler de la droite dure encore une fois cette semaine avec le réseau Liberté Québec. Mais juste avant d'en parler, j'aurais aimé ça vous faire entendre un petit extrait d'Éric Duhaime. Éric Duhaime, ça c'est le porte-parole du réseau Liberté Québec. Un des porte-paroles, un des deux porte-paroles. On l'a vu à Tout le monde en parle, on l'a vu à Martineau, on l'a vu à plein de places. Puis écoute, là, c'est le beau jeune gendre qu'on voudrait inviter pour dîner. Mais M. Duhaime, des fois, il dit des conneries. Puis là, ben là, on a un bel exemple.
Nous autres, au Québec, là, à Mercadier, il y a un agenda islamique. Là. J'espère qu'on commence à voir ça. Là. Il faudrait que Françoise David le rappelle à l'ordre à Mercadier. Là. Si Françoise David veut créer un parti islamiste au Québec, qu'elle nous le dise. Là. Mais là, c'est supposé être un parti de gauche, d'extrême gauche ou de gauche, son affaire. C'est pas supposé être un parti islamiste. Et moi, ça m'inquiète, cet agenda-là d'Amir Kadir. J'espère que c'est un agenda personnel, que c'est pas un agenda de Québec solidaire puis de Françoise David. Et il y a beaucoup de questions à se poser.
Mais même au niveau...
L'islam radical, je pense qu'on peut s'entendre. Il faut qu'à un moment donné, là, le gouvernement arrête de laisser Amir Kadir décider les caler les shots au Parlement. Là. Ça n'a aucun sens. Il faut l'arrêter. Il y a un agenda. C'est un gars qui est très radical, qui s'en va. On sait pas où, mais on sait que c'est pas clair ses visées. Moi, ça m'inquiète. Puis c'est pas la première fois que j'en parle. Je vous en ai parlé sur plein d'autres dossiers. Et ça continue de jour en jour. On voit de plus en plus le visage d'Amir Kadir.
Il faut se préoccuper de ça parce que tu as vu les chiffres de Statistique Canada cette semaine sur 2031. C'est ça, un sur trois en 2031 qui va être né à l'extérieur du Canada.
Puis on laisse passer ça, on laisse passer les radicaux, on les accueille, on les prend même comme réfugiés. Et on se ramasse avec des problèmes. On est en train d'importer les problèmes qu'il y a dans le monde arabo-musulman chez nous. Et Amir Kadir est peut-être celui qui tient à porte pour ouvrir grande nos portes à cet extrémisme-là. Et moi, je pense qu'il faut l'arrêter. Là.
Amir Kadir, qui est un militant laïque, qui est probablement athée, mais bon.
Effectivement, athée, oui. Non, c'est pas mal, ça montre bien à quel point ils font de la politique de façon quand même assez sale, faut bien le reconnaître. Et justement, en fait, le RLQ, comme je disais tantôt, je te rassure d'ailleurs, je dois être un des seuls à utiliser un acronyme pour parler d'eux. Donc le réseau Liberté Québec, effectivement, il fait de la politique un peu façon Tea Party, mais c'est un modèle vraiment qu'ils ont mis de l'avant. Ils se revendiquent souvent d'être une sorte de Tea Party québécois, notamment Duhaime, on le voit en train de prendre une tasse de thé et d'expliquer ça à un journaliste du Toronto Star. Donc effectivement, c'est le modèle qui est proposé finalement, que le RLQ devienne ce mouvement populaire, ce mouvement grassroots, c'est comme ça qu'il se qualifie, donc qui manque au Québec. Et pourtant, en fait, si tu regardes les similitudes avec le Tea Party, entre Tea Party et RLQ, tu peux voir qu'il n'y a pas juste cet aspect de mouvement populaire et de mouvement grassroots. Si on prend par exemple quelques articles qui sont sortis dans la presse anglophone, tu peux voir que un des think tanks qui appuie le plus le Tea Party, c'est Freedom Works. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Un think tank qui regroupe 34 personnes, 800 000 membres et qui dit avoir formé plus de 150 000 personnes à sa doctrine ultralibérale, qui est moins d'impôts, moins de gouvernement, plus de liberté. Tu vois, c'est quand même pas mal dans la même veine que le RLQ. Et en fait, donc Freedom Works, ils ont été largement financés par les frères Koch ou Koch, je sais pas comment on prononce, on va dire Koch, tiens. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler aussi? Et pourtant, les frères Koch sont bien actifs. On dénombre pas mal d'articles aux États-Unis qui mettent en évidence les liens qui les unissent avec le Tea Party. Par exemple, les frères Charles et David Koch, donc, ont donné environ 8 millions de dollars à Citizen for a Second Economy, lequel deviendra Freedom Networks, donc celui qui va ensuite organiser plus de 1000 Tea Parties aux États-Unis. Donc, si tu regardes le groupe Koch, en fait, on peut demander ce que c'est. C'est un des gros lobbies pétroliers, c'est une énorme compagnie pétrolière, en fait, Koch Industries, qui a des revenus juste pour l'année 2009 de 100 milliards de dollars. Et les deux patrons ont chacun un revenu de... Non, ensemble, pardon, un revenu de 40 milliards de dollars. Ça fait quand même 180 000 dollars la minute. Ils sont bien payés, on peut dire. Donc,
oui, ils travaillent fort.
Donc ça, c'est du côté du Tea Party. Donc, Du côté du Tea Party, on a donc les frères Koch qui financent. En fait, il y a un rapport de Greenpeace qui montre que les frères Koch ont dépensé plus de 48,5 millions de dollars en 10 ans pour financer différents think tanks comme Americans for Prosperity, Heritage Foundation, Mercatus Center, Cato Institute, etc., etc. Le but est assez simple, c'est d'utiliser l'influence intellectuelle et médiatique des think tanks pour mettre en place une sorte d'expertise ou une contre-expertise pour nier le réchauffement climatique. Donc ça, c'est leur but ultime.
C'est les climato-sceptiques.
Voilà, exactement. On arrive aux climato-sceptiques. Donc ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est ce que fait...
C'est les moustachus.
Ah, on y arrive, on y arrive. Ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais quand tu regardes au Canada, il y a l'Institut Fraser qui lui aussi a reçu plus de 175 000 dollars de la famille Koch de 2005 à 2008. Et effectivement, donc l'Institut Fraser, il appuie le RLQ, il était présent avec un kiosque à l'entrée de sa conférence publique. C'est aussi l'Institut Fraser qui jalonne la carrière de Éric Duhem, qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Est-ce que tu savais qu'il avait fait sa maîtrise, par exemple, à l'Institut Fraser ? Et voilà. Et Éric Duhem, il travaille également pour l'Institut économique de Montréal, qui a été fondé par la même personne que l'Institut Fraser, soit Michael Walker. Et les fondateurs du RLQ, en fait, par le biais de leur site internet, reprennent souvent aussi l'actualité de l'IEDM. D'ailleurs, la directrice de l'IEDM, Michèle Caligagnon, était présente aussi à la première du RLQ. Un autre des invités du réseau Liberté Québec, qui était Ezra Levent, il vient de publier un bouquin qui s'appelle « Ethical Oil » pour vanter les grandes vertus de l'exploitation des sables bitumineux albertains. C'est pas rien quand même. Coïncidence, oh grande coïncidence, Ezra Levent, il a été Summer Fellow à la Koch Foundation. C'est là qu'il a commencé sa carrière conservatrice. Et après, son premier emploi, c'était à l'Institut Fraser. Donc cette personne qui a travaillé pour la Koch Foundation, puis ensuite à l'Institut Fraser, elle a donné une des premières conférences du réseau Liberté Québec. C'est quand même pas mal. Et en fait, on retrouve, non seulement sur la question du réchauffement climatique, mais sur d'autres points de vue aussi, toutes les positions de l'Institut Fraser au sein du RLQ. Par exemple, le fait de défier l'establishment médiatique, le fait de promouvoir un autre contre-modèle au modèle québécois. Ça sont toujours des positions qui sont défendues par l'Institut Fraser ou l'Institut économique de Montréal. L'Institut économique de Montréal, il faut savoir par exemple qu'il y a la femme de Paul Desmarais qui siège sur ce conseil, sur le conseil d'administration, en fait on est même directrice. Et la famille Desmarais, elle a beaucoup d'avoir, d'actifs à l'intérieur du groupe Suez, aussi des projets avec Power Corporation, Rabaska. Et bizarrement, bah, c'est l'Institut Fraser, l'IEDM, qui donne une large place au patronat de l'industrie gazière et énergétique. Et donc, qui mettent de l'avant des propositions climato-sceptiques qui sont reprises par des gens comme Jacques Brassard, qui lui aussi est pour l'exploitation des gaz de schiste, etc., etc. Bref, tu vois, sur la position du climato-scepticisme, quand le RLQ parle, en fait, ce sont les intérêts de grands lobbies pétroliers, gaziers, énergétiques qui sont en train de s'exprimer.
Oui, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est des marionnettes innocentes ou ben non, est-ce qu'ils le font volontairement, consciemment?
Oh, il y a toujours des tentatives d'instrumentalisation mutuelle. C'est normalement un peu ça la politique. Mais là, effectivement, quand tu regardes les forces en présence, il y a quand même des gens qui gagnent des millions de dollars, qui ont des journaux, qui ont des think tanks, et puis les libertariens qui ont l'air un petit peu à côté de la plaque. Alors effectivement, les intérêts des uns, disons, sont bien servis par le discours des autres, quelque chose comme ça. C'est un peu la même chose d'ailleurs avec tout ce qui concerne le défi à l'establishment médiatique. Je sais pas si tu sais, mais aux États-Unis, le Tea Party, il est largement appuyé par un des grands magnats de la presse qui s'appelle Rupert Murdoch, donc qui est directeur de Fox News. Et grosso modo, on va retrouver exactement le même schéma au Québec où c'est Québécois qui va jouer le rôle du Rupert Murdoch pour le RLQ. Québécois, donc, forcément, qui était présente à la première soirée du RLQ, mais qui est aussi le patron d'Éric Duhem, notamment, aussi de Nathalie El-Gharabi, qui est aussi une membre de l'Institut économique de Montréal, aussi une personne qui est membre de l'Institut Fraser. Ezra Levent ou Tony Tenneke, qui étaient les premiers invités du réseau Liberté Québec, eux aussi travaillent pour Sun TV, qui fait partie du groupe Québécois. Et c'est le groupe Québécois qui imprime aussi la revue Perspective, qui est la revue officielle de l'Institut Fraser. Bref, tu vois, des gens qui se tiennent, mais pas à peu près. Donc c'est un petit peu ça l'idée de cette chronique, qui est inspirée d'un travail qui va être publié dans le droit de parole ce mois-ci. C'est de montrer en fait combien derrière le discours officiellement qui fait du RLQ un mouvement populaire et de droite, en fait pour le moment c'est plus ou moins vrai. Là, il y avait 400 personnes à leur soirée, puis on peut pas parler d'un véritable mouvement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça correspond tout à fait à la convergence de grands intérêts financiers, le grand lobby, que ce soit du pétrole, du gaz, des assurances privées. Et tous ces gens-là, donc en fait, on reprend leur discours tranquillement au RLQ.
Ouais, pourquoi je mets personne qui veut nous financer, nous, merde?
Parce qu'on est contre.
Bon, je pense que c'est ce qui va mettre fin à ta chronique à cette édition de Voix de fait. C'était Nicolas en compagnie de...
Janie.
Stéphane.
Stéphane Rouco.
Passez une agréable semaine sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec.
London, I'm gonna find them. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting. All I see is you fighting. London, you're gonna find them. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting. All I see is you fighting.
Well, it's empathy, that's some integrity brought in. Humility, you've come to find a whole lot more. I'm not one to judge, nor I carry a grudge, but I refuse to budge my determinating vow.
London, you're gonna find it. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting. All I see is you fighting. In London, you're gonna find it. New York, LA, back to Kingston. All I see is you fighting.